France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. C'est un immense espoir dans la lutte contre le SARS-CoV-2. Le laboratoire américain Pfizer annonce que le vaccin contre le Covid-19 qu'il est en train de développer avec l'allemand BioNTech est efficace à 90%. Ces résultats sont issus de l'essai à grande échelle de la phase 3, autrement dit la dernière étape avant une demande d'homologation. Dans cette course au vaccin, sachez par ailleurs que le Brésil a suspendu hier des essais cliniques d'un vaccin chinois après un incident grave chez un volontaire. Pendant ce temps, à cause du Covid-19, 551 personnes sont mortes à l'hôpital en France ces dernières 24 heures. Chiffre jamais atteint lors de cette deuxième vague de l'épidémie dans le pays. Et le pic est devant nous, prévient Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Un accord de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux pays s'affrontaient depuis plus d'un mois dans la région du Haut-Karabakh. Ils ont trouvé un terrain d'entente sous l'égide de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Le texte a été signé hier soir et il entérine en quelque sorte une défaite arménienne car il fige les positions à ce qu'elles étaient hier soir. Défaite donc de l'Arménie à travers ce texte. Et après cette annonce, une foule en colère a envahi le siège du gouvernement arménien dans la capitale Erevan. Plusieurs pays européens se retrouvent aujourd'hui pour un mini-sommet à distance sur la menace terroriste. Alors qu'hier, le président du Conseil européen Charles Michel ainsi que Clément Beaune, secrétaire d'État français aux affaires européennes, étaient à Vienne une semaine après l'attaque terroriste. Sachez enfin que l'Agence nationale de sécurité du médicament est mise en examen pour blessures et homicide involontaire dans l'affaire de la Dépakine. Cet antiépileptique a été prescrit contre des troubles bipolaires, mais il présente un risque élevé de malformation sur le fœtus s'il est pris par une femme enceinte. L'État français avait déjà été condamné en juillet dernier à indemniser des familles d'enfants handicapés.
Alors que les élections présidentielles américaines vont sceller la stratégie à venir face au réchauffement climatique, Laurent Fabius a choisi de livrer sur France Culture son regard diplomatique, économique, politique et personnel sur la transition écologique depuis le rôle qu'il joua en 2015 lors de la conférence de Paris. De cause à effet, le magazine de l'environnement d'Aurélie Luneau, avec Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, ce mardi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les élites en temps de crise.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Des oligarques dans l'antique Athènes aux intellectuels face à la guerre, en passant par l'empire de Charlemagne qui se délite, il y a du sang dans l'encrier et des contestations dans la cité. Mais d'ailleurs, depuis combien de temps dure la crise des élites?
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant avec Bruno David et ce matin un puissant parfum, celui de l'ail.
À midi, installé dans un restaurant africain, commandez un poulet cuit au four dans sa croûte d'ail. 3 heures après le déjeuner, votre salive, votre peau sentiront l'ail. Même si vous vous lavez, l'odeur ressurgira. Vous pourrez alors vous enorgueillir d'avoir adopté un parfum royal. En effet, Henri IV, roi de France et de Navarre, est réputé pour en avoir abusé. Il mangeait beaucoup d'ail cru, enfourait ses omelettes, entruffait ses plats. En cas, allez hop, une tranche de pain beurré piquée de gousses d'ail. Tant et si bien que certaines de ses maîtresses, dont la légende dit qu'il en eut 73, ne se privèrent pas de le lui reprocher. Écoutons-les. Ah, sire, qu'il vous prend bien d'être roi. Sans cela, on ne pourrait vous souffrir car vous puez comme charogne. L'ail, Allium sativum, est une petite plante herbacée dotée d'un bulbe constitué d'une quinzaine de gousses au goût fort prononcé. Le parfum du bon roi Henri provient d'une chimie compliquée. Lorsque les gousses sont rompues, l'aline qu'elle renferme est libérée. Elle est transformée par une enzyme en allicine qui libère à son tour des sulfures qui vont circuler longtemps dans le sang et passer dans la salive. Mais le bon roi Henri ne fut pas le premier. Originaire d'Asie centrale, l'ail s'est rapidement répandu dans les régions du Caucase et de la Méditerranée, où son utilisation est connue depuis 5000 ans. Des papyrus de l'époque de Ramsès II le mentionnent comme remède universel pour ses propriétés toniques, fortifiantes et antiseptiques. D'ailleurs, une variété d'ail se nomme Ramsès. Même chose chez les Grecs et les Romains, qui donnent des rations d'ail cru à leurs soldats pour les fortifier. Les gladiateurs mangent de l'ail avant les combats. Selon Pline l'Ancien, il neutralise tous les venins, guérit la lèpre, l'asthme, la toux et éloigne de la folie. Dans les contrées de langue catalane, l'ail protège du mauvais œil. Au Moyen Âge, les enfants auraient porté des tresses d'ail pour se protéger des sorcières. Il est utilisé contre la peste, le choléra, le typhus, la grippe et autres épidémies avec une efficacité variable. En 1900, il était encore prescrit comme antiseptique, vermifuge, stimulant et diurétique. Aujourd'hui encore, il conserve une solide réputation d'expectorant, hypotensif, tonique, etc. Même si, au vu de ses listes, l'on accorde à son pouvoir thérapeutique trop de vertus, ses propriétés antiseptiques sont réelles, car l'allicine est efficace contre certaines bactéries. Est-ce pour cela que les bâtisseurs des pyramides recevaient une part de leur salaire sous forme de gousses d'ail ? En tout cas, ils y attachaient une grande importance. L'historien grec Hérodote rapporte qu'en 2580 avant notre ère, lors de la construction de la pyramide de Khéops, les ouvriers eurent leur ration d'ail réduite, puis finalement supprimée, la chaîne d'approvisionnement s'étant rompue. Tous s'arrêtèrent de travailler en signe de protestation. La première grève connue de l'histoire de l'humanité ne fut pas provoquée par manque d'oseille, mais par manque d'ail.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin, on va parler de voyage, de découverte de contrées lointaines, d'évasion, de passion et d'amour. On en a tous besoin en ce moment, n'est-ce pas? Et on va parler de tout ça à partir de l'œuvre d'Ugo Pratt, le grand maître italien de la bande dessinée, le créateur de Corto Maltese, disparu il y a tout juste un quart de siècle, en 1995. Son dernier livre, J'avais un rendez-vous, un ensemble de textes, d'aquarelles et de dessins qui raconte son dernier voyage dans le Pacifique en 1992, vient d'être réédité par Le Tripode. L'invité du réveil culturel, Frédéric Martin, est l'éditeur de ce beau livre, indispensable pour tous les amateurs de Pratt. Et on aura aussi, depuis Lyon, un autre spécialiste d'Hugo Pratt, l'historien et essayiste Michel Pierre, qui lui vient de sortir chez Casterman, aventureuse consacrée aux femmes qui ont partagé les aventures de Corto Maltese, Bouche Dorée, Pandora, Anne de la Jungle. J'avais un rendez-vous, donc, réédité au Tripode, et l'ultime livre d'Hugo Pratt, le maestro de la bande dessinée, le créateur de Corto, y raconte son dernier voyage en 1992 dans le Pacifique. Dans le Pacifique, évidemment, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Pratt. Mais ce beau livre est plus qu'un carnet de voyage. Pratt évoque son enfance, les livres et les films qui l'ont nourri, les rencontres essentielles, les bonheurs éphémères et les blessures éternelles, le bonheur de la vie quand on a traversé les tempêtes du XXe siècle. C'est comme si Pratt écrivait son testament, avec des mots, mais aussi avec ses photos, des dessins et des aquarelles remarquables. Ce beau livre est un livre d'art. « Passer ma vie dans un monde imaginaire a été mon île au trésor », confia un jour Hugo Pratt. La bande dessinée lui permettait d'être tout à la fois dessinateur, mais aussi romancier, historien, ethnologue. Elle lui a permis de réaliser ce qu'on avait de mieux à faire durant le siècle dernier. Voyager, voyager, prendre le large. Le 25 mai 1990, il s'exprimait à la télévision dans l'émission Thalassa, le magazine de la mer. Il évoque son projet de reprendre la mer pour un ultime rendez-vous avec l'océan Pacifique.
J'ai fait des grands voyages par mer. Et quand j'étais jeune, j'ai travaillé à côté des bateaux. Des bateaux de, disons, packet boat ou des bateaux de charge, de cargo. J'ai même travaillé sur un cargo quand j'étais jeune. Et moi, je suis vénitienne. Et alors, l'eau, c'est quelque chose qui va bien avec ma nécessité d'imagination. J'ai encore un rendez-vous au Pacifique. Je devais aller à la Samoa anglaise, pour trouver la tombe de Robert Louis Stevenson.
Bonjour Frédéric Martin.
Bonjour.
Aller jusqu'au bout du monde par gratitude envers Stevenson pour les magnifiques histoires dont il a tout au long de sa vie tourmenté, régalé ses lecteurs. C'est ce que déclarait quelques mois avant de voyager Hugo Pratt à Thalassa. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réalisé les objectifs de cet ultime voyage? Est-ce qu'il savait d'ailleurs que c'était son dernier voyage?
En 90, je pense qu'il se savait déjà un peu fatigué et peut-être pas malade, mais c'est arrivé tout très vite après, en tout cas, oui. Quant à savoir s'il a réussi, vous le mettez au pluriel, donc c'est plus facile d'y répondre, les objectifs. Alors très concrètement, il y en a un qu'il a pas pu parfaitement réaliser, c'est-à-dire d'aller sur la tombe. Parce que, en fait, la tombe est dans un lieu très escarpé et un ouragan, quelques jours plus tôt, avait rendu le chemin impraticable. Donc il n'a pu que la survoler en hélicoptère. Après, tous les autres objectifs, et il y en avait beaucoup, je pense. Donc il a fait ce voyage en 92, et là, il se savait déjà malade. Il a fait de ce voyage à la fois un recueillement et du livre qui a suivi une sorte de testament.
Frédéric Martin, vous avez sans doute lu ce livre quand vous étiez adolescent. J'avais un rendez-vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le rééditer?
C'est plus qu'un livre pour moi, c'est presque un talisman. Je pense que depuis 10 ans, je dirige une maison d'édition et je crois qu'elle prend ses racines dans ce livre, en fait, tout simplement. Donc c'est une situation très étrange parce que vous lisez un texte quand vous êtes encore un peu gamin. Moi, j'avais une 20aine d'années. Et à peu près 20 ans plus tard, vous retrouvez à lui donner une autre vie, comme un retour. Là aussi, il y a presque une sorte de pèlerinage pour moi. Et ce livre a été très important, effectivement.
Mais pourquoi il a été important pour vous, Frédéric Martin?
Oh, d'abord, c'est un livre magnifique, parce que, comme vous le disiez, c'est pas simplement un carnet de voyage, c'est un imaginaire qui se déploie, c'est toute une vie qui se représente à vous, puisque, d'ailleurs, de manière assez amusante, le début du livre vous annonce le Pacifique dans la première phrase. Et deux paragraphes plus loin, vous êtes dans l'arrière-cuisine d'un appartement de Venise, ouais. Avec des vignettes Liebig qu'il collectionnait parce que ça lui permettait de rentrer dans son imaginaire. Donc c'est un livre très ample. Moi, je dirais principalement, ce livre, il m'a appris deux choses. C'est le rapport à l'image et aux mots, parce que c'est un texte qui circule beaucoup entre les deux, qui explique beaucoup justement ce que sont que les images et ce que peut être la littérature.
Et quand vous dites images, c'est dessin, aquarelle et photo.
Pratt, il est né en 1927. Moi, c'est quelque chose que j'avais compris avec un autre auteur italien que je publie, qui est Goliarda Sapienza. C'est en fait la génération qui voit l'avènement de l'image. La généralisation du cinéma, les deux d'ailleurs, dans leur Pratt dans ce livre et Sapienza dans ses carnets, parle d'une revue de bande dessinée qui s'appelait L'Aventure Rose, qui a été l'équivalent, on va dire, d'un Picsou magazine de l'époque. C'est des gens qui voient naître la bande dessinée, qui voient naître le cinéma, qui voient l'accélération de leur époque aussi, et qui vont jouer avec. Et dans cette accélération-là, il y a aussi une accélération très nette dans le rapport à la langue, ne serait-ce par la diffusion des médias, en réfléchissant encore au rapport de Pratt au langage. Je repensais à ce livre de Klimperer, vous savez, sur la langue du Troisième Reich, et la manière dont les nazis avaient pu contaminer les imaginaires par les mots. Vous avez des personnes comme Sapienza, comme Pratt, qui vont avoir une sorte de défiance par rapport au langage, ou en tout cas aux doctrines et aux idéologies, et qui vont créer des univers, sinon parallèles, mais en tout cas très forts, qui sont à la fois ancrés dans l'image. Sapienza a été actrice aussi de cinéma et de théâtre, et dans l'écriture. On a souvent dit de Pratt qu'il avait été l'inventeur de la littérature dessinée, mais je pense que c'est plus que ça, c'est pas juste une transposition des vertus de la littérature en images, c'est qu'il a créé dans les écarts, les blancs qu'il constitue entre le dessin et les mots qu'il utilise, des outils très puissants pour répondre à notre époque. Pratt, la reconnaissance, elle est venue quand même 50 ans après, hein, que dans le milieu des années 70. Il faut pas oublier que Hugo Pratt, par exemple, à un moment, Corto Maltese, que toujours et tout le monde vénère aujourd'hui, a commencé à être publié dans Pif Gadget, un magazine pour enfants, avec énormément de critiques. Il avait pas de place. Et dans les années 70, subitement, c'est à la fois une sorte de reconnaissance, voire de consécration. Et c'est ma génération, en fait. Moi, je suis né en 75. Et c'est la génération, je pense, qui a intégré l'apport de cette génération-là, qui a fait grandir le rapport à l'image et au texte.
La littérature est très présente dans la culture d'Hugo Pratt. Ça, on se rend bien compte en lisant « J'avais un rendez-vous », puisqu'à un certain moment, il dit qu'il veut aller au bout du monde rien que pour retrouver dans la réalité une atmosphère fantasmée identique à celle décrite dans une nouvelle de Somerset Maugham. Il y a bien sûr son rapport à Stevenson. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus touché, Frédéric Martin, vous qui êtes tout à la fois éditeur, amoureux des livres, mais aussi voyageur, vous avez beaucoup voyagé, hein. J'ai vu que vous avez eu une enfance à Tahiti, vous êtes Marseillais, même si vous vivez aujourd'hui à Paris, donc vous avez vécu dans une ville portuaire. Est-ce qu'il y avait aussi ces affinités entre l'évasion, les voyages et la littérature ?
Maintenant, je vis en Bretagne, donc j'ai retrouvé les bords de mer, et j'ai également vécu au Maroc et aux Pays-Bas, donc oui, il y a une sympathie immédiate pour l'univers de Pratt et son côté vagabond. Mais encore une fois, pour revenir à l'importance de cet homme et de son œuvre, je pense qu'elle est plus dans ce rapport à l'imaginaire. Vous l'avez évoqué, la notion de songe était très importante chez lui. Il a même dit que la vraie vie était un songe. Attendez, je me trompe pas, mais je crois qu'il commence ce livre-là. Je vais le réouvrir pour. La première phrase. Il dit Je suis
venu dans le Pacifique à la recherche d'un rêve, ou plutôt à sa poursuite.
Et quand vous pensez que la vraie vie est un songe, ça revient à dire que vous êtes parti à la recherche de votre vraie vie.
Et il dit, je me suis donné quelques rendez-vous au mi-temps du réel et de l'imaginaire.
Et il n'arrête pas de naviguer comme ça.
Naviguer, c'est bien le mot.
Il se trouve que la semaine dernière, pour des raisons complètement différentes, je relisais un livre de Valérie Zenati dans Le faisceau des vivants. Et elle dit un truc très marrant. Qui m'a permis d'éclairer ce que j'essaie de dire sur Pratt, c'est que elle est à la fois écrivaine et traductrice, et elle dit, il y a un truc qui est bizarre, quand j'écris, j'invente des personnages, je les oublie très vite après avoir fait le livre. Par contre, quand je les traduis, et traduire c'est la forme supérieure d'une lecture, c'est la lecture la plus aiguë qu'on peut avoir d'un texte, je ne les oublie plus jamais. Et ben Pratt, c'est ce qu'il fait avec son œuvre, c'est-à-dire qu'il crée des mondes pour se défaire d'une histoire qui est complexe. Il faut pas oublier que le père de Pratt était fasciste, que lui-même a été, il le disait en souriant, un des plus jeunes soldats de l'armée mussolinienne, qu'il a vécu des tragédies en Érythrée quand il était adolescent, et après toute sa vie a été vagabond. Et c'était aussi un immense lecteur, c'est-à-dire qu'il a agrégé à son univers pour le grandir un monde qui est fait de lecture, de rêverie, de songes, de dissolution du temps. Ce qui est très étonnant chez lui, c'est que son personnage, on va dire, jumeau, Corto Maltese, c'est juste un avatar d'Hugo Pratt quand même. Il le fait naître avant et il le fait circuler dans toutes les époques, soit par le rêve, soit par la magie, mais Pratt peut dialoguer avec des magiciens du Moyen-Âge sans aucun problème. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a marqué, essentiellement. C'est cette capacité à dissoudre les frontières du temps et de l'espace.
Est-ce que Hugo Pratt n'incarne pas le XXe siècle, c'est-à-dire, ou du moins, c'est-à-dire cette envie de voyage, cette envie aussi de littérature et de la littérature de voyage, est-ce qu'on ne l'a pas un peu oublié avec le XXIe siècle, par exemple, avec toutes les technologies qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'instant même à l'autre bout du monde ?
Ah, c'est une super question. Parce que je pense qu'il y a deux manières d'y répondre. Il faut pas oublier qu'il va dans le Pacifique, hein, quand même, pour conclure son existence. Et je pense qu'il a eu effectivement un siècle qui a été, le siècle qu'il a traversé a été un siècle très violent, très, très téméraire. Et qu'il a été un magnifique voyageur au milieu de tout ça. Il disait que sa seule fidélité était celle qu'il avait pour ses amis. Et ça a été sa quille. ça lui a permis de dialoguer avec toutes les idéologies, même dans ses bandes dessinées. Certains personnages comme Rasputin, par exemple, sont très ambigus et sont jamais jugés. Et je pense que cette compréhension-là, cette tolérance, aujourd'hui, elle manque. Et pour l'autre raison, c'est que en même temps, il a vu l'accélération du XXe siècle. Il a eu encore le temps de goûter au cargo, de goûter à la lenteur des voyages, et de les ralentir. C'est un extraordinaire érudit. Je crois que dans sa bibliothèque de son ultime maison en Suisse, il avait quelque chose comme 30 000 ouvrages. Et c'est quelque chose qu'on a perdu, je pense, aujourd'hui, effectivement. C'est-à-dire que plus que le voyage, qu'on est quand même capable de faire encore aujourd'hui, on a perdu la lenteur du voyage.
La lenteur du voyage, comme vous le dites, Frédéric Martin, mais aussi l'exploration du monde. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de voyager pour tout savoir du monde.
Ah, il faut espérer que c'est qu'une mauvaise passe, que ça va revenir, parce que le regard ne peut pas être remplacé par l'image. C'est quand je disais que Pratt, comme Sapienza, avait créé des outils pour faire face à l'image et à cette accélération du temps. Je pense qu'il faut aujourd'hui effectivement apprendre à lutter contre l'instantanéité des images et la lenteur de ces ancrages, par exemple, la manière dont beaucoup de ces planches, par exemple, étaient muettes, laisser les respirations possibles pour un imaginaire. Je pense que ça redevient un peu quand même au goût du jour. Même au niveau alimentaire, vous voyez, cette envie de manger lentement, de vagabonder. Il y a les marcheurs qui vont très vite pour aller à un point. Moi, il me faut une heure pour faire 10 mètres parfois. Donc, je pense qu'en une heure, on peut voyager très loin, même en restant à moins d'un kilomètre de chez soi.
Comment ça?
Ah ben, regardez, revenons à Pratt. Certains des plus beaux voyages qu'il fait faire à ses personnages, c'était en restant assis dans l'arrière-cour d'un quartier perdu de Venise. On n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour voyager. Ce qui fait le voyage, c'est la qualité du regard.
Enfin, pour terminer, Frédéric Martin, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette nouvelle édition de J'avais un rendez-vous? Je suppose qu'on a eu, nous deux, la première version, la version avec une nouvelle d'Antonio Tabucchi, préfacée par Michel Pierre, qui est d'ailleurs avec nous au bout du fil à partir de Lyon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition? Est-ce qu'on a c'est le même texte, bien sûr, mais au niveau des dessins, des aquarelles, des photos, des cartes, est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie les deux versions?
Alors, la première chose, ça serait de dire que ce n'est pas le même texte, justement, parce que la traduction a été, ouais, a été nouvelle. On mais a fait une nouvelle traduction pour l'époque, et il faut rendre gloire à Anne Tillen, qui a fait un magnifique travail. C'est un travail d'écrivain pour moi, ce qu'elle a réussi à faire dans la sensibilité des mots, le rythme, le souffle. Ensuite, par rapport à la première édition, je pense que y a eu le bénéfice des 20 années de 25 ans qui sont passés. C'est-à-dire que avec le recul, on a été plutôt dans une simplification de cette édition. Il y avait des textes, des appendices, des introductions qui n'embarrassaient pas la première édition, mais qui masquaient peut-être un peu ce côté testament philosophique. On a en fait recentré l'édition sur uniquement le texte de Goprat, y compris au niveau des illustrations. On s'est concentré sur tout ce qui était ses aquarelles, parce que c'était un très grand peintre aussi, des planches de bande dessinée, qu'on a remis tout ce matériau dessiné pour que le lecteur puisse se concentrer uniquement sur cet imaginaire et le texte de Pratt.
Et ça fait un très très beau livre, un livre édicté donc chez vous, au Tripode. J'avais rendez-vous d'Hugo Pratt. Merci beaucoup Frédéric Martin d'avoir
merci à vous.
Participé à cette émission. Dans un instant, Michel Pierre qui va nous parler d'un autre livre qui sort en ce moment même, un livre édité par Kesterman et qui est consacré aux héroïnes dans l'œuvre d'Hugo Pratt.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Vous êtes historien, essayiste, vous avez connu Hugo Pratt, vous avez beaucoup écrit sur Hugo Pratt. Est-ce que ce livre, ce très beau livre aussi qui vient de sortir chez Casterman, consacré aux héroïnes dans l'œuvre d'Hugo Pratt, c'est un livre d'époque? Je veux pas dire que c'est opportuniste, que c'est un livre qui vient après le mouvement MeToo, mais je veux dire que effectivement, c'était une bonne occasion de rappeler que Hugo Pratt était un des premiers grands auteurs de bande dessinée à offrir aux femmes des rôles très importants dans ses histoires. Même si son héros, il faut le dire, ça reste Corto Maltese.
Oui, enfin, j'espère que c'est rien moins qu'opportuniste, puisque à l'origine, c'est un premier livre que nous avions fait avec Hugo, hein, de son vivant, sur les femmes de Corto Maltese, donc essentiellement centré sur les personnages féminins qui gravitent autour de son héros. Là, cette nouvelle édition, en quelque sorte, ou très très très, j'espère enrichie et modifiée, c'est sur l'ensemble des personnages féminins créés par Hugo, c'est-à-dire des personnages qui parcourent, par exemple, la série Les Scorpions du désert, ou bien Jésus Joe, etc. Quoi. Donc on est bien au-delà. Et il est vrai que ce sont des personnages tout à fait extraordinaires de modernité, même si j'aime pas beaucoup le mot, mais quand même par rapport au XXe siècle dans lequel elles sont insérées, elles font preuve de courage, d'invention, de mélancolie, d'autonomie surtout. Ce sont des personnages féminins totalement indépendants.
Et pourquoi Hugo Pratt voulait-il ce livre consacré à ces femmes qui ont eu un rôle essentiel dans les histoires d'Hugo Pratt, Michel Pierre?
Je crois que ce qu'il amusait, enfin quand je repense aux conversations que nous avions eues à l'époque, c'est que tout en respectant beaucoup, bien sûr, ces personnages et l'atmosphère dans laquelle elles évoluent, je prolonge un petit peu leur vie par ce qui relève d'un article de journal, d'un carnet intime, d'une description. Donc j'ai joué pour prolonger en quelque sorte son œuvre déjà à l'époque et encore plus maintenant, pour chacun des personnages de faire un petit texte en étant le plus respectueux possible de son univers. Nous avions suffisamment de, je pense, ou tout au moins j'espère, de conversations et de dialogues pour que j'ai pu en quelque sorte pénétrer un peu et partager son imaginaire et son amour de ces personnages féminins.
Alors pour terminer justement, et pour reprendre le titre de l'ouvrage, Aventureuse, publié donc chez Casterman, Michel Pierre, quelles sont parmi les femmes d'Hugo Pratt celles qui vous inspirent le plus, celles pour qui vous avez un attachement particulier, entre, je sais pas, Bouche Dorée, Pandora, Anne de la Jungle?
On parlait avec Frédéric Martin et il évoquait la Bretagne. Il se trouve aussi que je suis breton, donc il y a peut-être le monde celtique. Il y a le personnage de Banshee dans justement l'album Les Celtiques. Cette Irlandaise, il y a quelque chose qui est là assez tragique, mélancolique et en même temps très déterminé de ce personnage qui me semble résumer assez bien l'ensemble de ces visages qu'a recherché toute sa vie Hugo et qu'il a su si bien restituer.
Merci beaucoup Michel Pierre.
Merci beaucoup.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Autour d'Hugo Pratt, deux beaux livres à commander de préférence à votre libraire habituel. J'avais un rendez-vous, réédité par le Tripode, et la réédition aussi d'Aventureuse de Michel Pierre aux éditions Casterman. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la prise de son, Jean-Baptiste Echeparrebord. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard. Passez une bonne journée et à très bientôt.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Cette semaine, dans Culture Monde, nous nous penchons sur le défi que pose la crise sanitaire à nos régimes, à nos responsables politiques.
Culture Monde, Florian Delorme.
Tous sont mis à l'épreuve par le Covid. D'Angela Merkel, qui semble plutôt bien s'en sortir en Europe, même si tout n'est pas si simple, à Xi Jinping, plus que jamais renforcé en Chine, en passant par Donald Trump, dont la reconduction a été ébranlée par sa gestion du virus, ou encore Jacinda Ardern, en Nouvelle-Zélande, dont tout le monde salue l'efficacité. Gouverner au temps du Covid, on se retrouve cette semaine sur France Culture.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr. Sur France Culture, la Compagnie des œuvres, même si le prix Goncourt est reporté sine die pour cause de fermeture des librairies, redécouvrons Edmond et Jules de Goncourt, deux frères assez odieux. La méchanceté étant gratuite, ils la dépensèrent sans compter. Ces langues de vipères ont légué à la postérité deux cadeaux, leur journal, plein d'esprit et de médisance, et un fameux prix littéraire couché sur leur testament en 1892. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. C'est un cessez-le-feu en forme de défaite pour l'Arménie. Fin des combats actés hier soir dans le Haut-Karabakh avec l'Azerbaïdjan. Aux manettes, le russe Vladimir Poutine qui leur a fait signer le texte hier face caméra, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, les arguments du ministère de l'Éducation face à ceux du SNES-FSU pour ou contre les cours à distance dans les collèges. Ce mardi, une grève est annoncée chez les enseignants. Face au Covid-19, un vaccin pourrait voir le jour rapidement. En tout cas, des laboratoires américains et allemands l'ont annoncé hier. Et puis, Donald Trump va-t-il saborder une partie de son gouvernement avant de quitter la Maison-Blanche ? Il a en tout cas limogé son secrétaire d'État à la Défense. Analyse dans cette édition. Et l'on commence donc par ce cessez-le-feu signé tard hier soir entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, sous l'égide de la Russie. C'est d'ailleurs Vladimir Poutine, président russe, qui s'est exprimé en personne sur cet accord à la télévision.
Aujourd'hui, le 9 novembre, le président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, le premier ministre de l'Arménie, Pachinian, et le président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone de conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit, le 10 novembre, heure de Moscou. Les républiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan conservent leur position actuelle.
C'est bien ces positions conservées qui ne passent pas en Arménie. Cet accord est un acte de défaite selon les Arméniens, car ils perdent une partie des terres qu'ils occupaient il y a encore un mois et demi, avant la reprise du conflit dans le Haut-Karabakh. Une foule de milliers de manifestants en colère s'est rassemblée hier soir aux abords du siège du gouvernement arménien à Erevan. Idem au siège du Parlement. Et puis dans la nuit, la Russie a déployé près de 2000 soldats dans le Haut-Karabakh pour s'assurer du respect du texte. Julie Gacon évoquera plus longuement cette situation entre Arméniens et Azerbaïdjanais avec son invité dans les matins, dans les petits matins de France Culture à 6h45, c'est-à-dire dans moins d'un quart d'heure. Pour le moment, il est 6h32, vous écoutez toujours France Culture. Pour la deuxième vague de Covid-19, la France n'avait pas encore connu autant de décès à l'hôpital en 24 heures. 551 nouveaux morts hier, c'est le bilan annoncé par le directeur général de la Santé. Jérôme Salomon prévient également, le pic de l'épidémie de cette deuxième vague est encore devant nous. Et c'est dans ce contexte qu'une journée de grève est organisée aujourd'hui dans les établissements scolaires. L'intersyndicale des enseignants, le SNES-FSU en tête, dénonce le protocole sanitaire dans les écoles, car si les lycées doivent proposer la moitié de leurs cours à distance pour les élèves, cette hybridation ne concerne pas le primaire et le collège. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, s'en explique.
Alors, l'organisation des collèges et des lycées n'a rien à voir, puisque d'abord, alors, en termes de taille, les lycées constituent généralement les plus gros établissements. Là où l'immense majorité des collèges sont des établissements qui sont à peu près deux fois plus petits ou trois fois plus petits que les lycées, première chose. Et deuxième chose, les lycées sont caractérisés par un brassage beaucoup plus important d'élèves, notamment entre cours, ce qui est nettement moins le cas des collèges. Donc voilà, aujourd'hui, à la lumière de l'ensemble de ces éléments et aussi des observations qu'on peut faire sur le terrain, les règles qu'on a fixées s'appliquent effectivement pour les lycées.
Alors pour lui répondre, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, majoritaire dans le secondaire, était hier soir l'invitée du journal de 22h sur France Culture, Sophie Vénétité.
On a aussi des classes surchargées, on peut avoir jusqu'à 28 ou 30 élèves dans une même salle de classe sans aucune place disponible avec des fenêtres qui s'ouvrent très peu. Tous ces élèves-là se retrouvent à la cantine dans de mêmes conditions et à la cantine aussi, ils enlèvent leurs masques comme les lycéens. On les retrouve aussi dans les couloirs, on a aussi un problème de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires. Donc la situation des collèges est bien souvent comparable à celle des lycées, il n'y a pas de raison de les laisser à part. d'un protocole sanitaire renforcé.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi et Stanislas Vazak. Ajoutons par ailleurs qu'un million de tests antigéniques vont être déployés dans les établissements scolaires ces prochains jours. Ils seront réservés au personnel. Les élèves ne sont pas concernés. En Grande-Bretagne, c'est une opération massive de tests qui a eu lieu dans la ville de Liverpool. Une grande partie de la population a déjà fait la queue pour accéder à ces tests et pour avoir un résultat dans l'heure. 2000 soldats sont venus aider les services de santé à Liverpool. Richard Place s'est rendu dans l'une des salles réquisitionnées par les autorités. Voici son reportage.
Devant le club de tennis, Lorraine attend son tour. Masquée, cette trentenaire observe les militaires qui ont pris possession des lieux. Une scène a priori bizarre.
Il y a quelques mois, j'aurais trouvé ça très étrange. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est normal, mais je m'y fais, j'imagine.
À l'intérieur, sur les cours de tennis couverts, Paul, 73 ans, suit la procédure que lui indique un soldat en uniforme.
Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est ouvrir l'emballage de l'écouvillon.
Le septuagénaire s'exécute dans un petit box de 4 mètres carrés.
Et vous allez le mettre au fond de votre gorge, puis le frotter 3 fois de chaque côté. C'est désagréable, si ça vous donne des haut-le-cœur ou si ça vous fait tousser, c'est que vous le faites bien.
Il toussote et a les yeux humides, mais Paul est satisfait.
C'est fait, c'est bien organisé. 10 minutes et c'est réglé. Épatant.
Une fois l'écouvillon récupéré, les militaires le trempent dans quelques gouttes de réactif. Puis ils attendent de voir apparaître un marqueur, un peu comme un test de grossesse. Le résultat est envoyé par SMS ou par mail, si besoin même, un coup de fil. Le résultat, c'est ce que Suzanne attend désormais.
Nous sommes face à une pandémie, alors essayons de la ralentir pour la garder sous contrôle.
Selon le maire de Liverpool, en 3 jours, plus de 23 000 personnes ont été testées. Encourageant, mais on est encore loin des 500 000 espérés.
Richard Place à Liverpool pour France Culture. Dans la course au vaccin maintenant contre le Covid-19, 2 laboratoires annoncent avoir déployé et développé ensemble un vaccin efficace à 90%. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Ces résultats proviennent en fait du début du 3e et dernier essai avant une demande d'homologation. Les détails dans le journal de 7h de France Culture, où nous irons aussi aux États-Unis puisque Joe Biden, le président élu, a appelé hier à la prudence face à cette annonce. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, veut montrer qu'il est toujours président des États-Unis. Il a licencié hier son secrétaire d'État à la Défense, Frank Madvon.
Le limogeage de Mark Esper n'est pas une énorme surprise. Le chef du Pentagone avait agacé Donald Trump en refusant d'envoyer des soldats mettre de l'ordre dans les manifestations contre les violences policières, comme le souhaitait le président. Pas une surprise donc, mais un geste fort au début de la transition. Le successeur d'Esper, Christopher Miller, est peu expérimenté. Donald Trump pourrait lui imposer ses grands desseins, le retrait total des troupes d'Afghanistan ou d'Irak, par exemple, voire une opération militaire en fin de mandat. Trump montre en tout cas qu'il reste aux commandes et ne sera pas magnanime avec ceux qui le dérangent. D'autres responsables seraient sur la sellette, le patron du FBI, la directrice de la CIA ou encore Anthony Fauci, le célèbre immunologue qui pilote la lutte anti-Covid. Donald Trump n'a aujourd'hui aucun rendez-vous officiel à son agenda, comme chaque jour ou presque depuis un mois. Entouré de ses derniers fidèles, l'actuel président conteste sa défaite et ne fera certainement pas le moindre effort pour faciliter la transition.
Franck Madvon, nous en venons maintenant à ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Procès des attentats de Barcelone en pleine avenue de la Rambla et de Cambrils en août 2017. Au total, 15 personnes avaient été tuées par 5 terroristes abattus à l'époque. À la barre, donc, à partir d'aujourd'hui, ce sont 3 accusés que l'on entendra de potentiels complices, Mathieu. De Taillac.
Aucun des 3 accusés n'était présent dans la camionnette qui tua 14 personnes sur la Rambla de Barcelone le 17 août 2017. Aucun non plus ne faisait partie du groupe de 5 terroristes qui, le lendemain, écrasaient tous les passants possibles avant de poignarder les piétons à Cambrils. Tous ces meurtriers directs ont été abattus par la police. Quant au cerveau qui a monté la cellule terroriste, un imam, il était mort avec quelques autres lors de l'explosion accidentelle de la maison où ils avaient accumulé les explosifs qu'ils pensaient utiliser lors d'attentats de plus grande envergure d'envergure, notamment contre la Sagrada Familia et la Tour Eiffel. Restent donc trois prévenus, âgés aujourd'hui d'entre 23 et 31 ans. Mohamed Ouli Chemlal risque 41 ans de prison. Le parquet l'accuse d'appartenance à organisation terroriste, de fabrication et de détention d'explosifs. Contre Driss Oukabir, le frère d'un des terroristes abattus, accusé des mêmes délits, le procureur réclame 36 ans. Oukabir a loué la camionnette utilisée sur la Rambla. Saïd Benyaza, enfin, est considéré complice et encourt 8 ans de prison. Outre les accusations du parquet, les prévenus feront face à une douzaine de parties civiles. 200 témoins doivent également être entendus lors de ce procès fleuve qui doit durer un mois.
Mathieu de Taillac, depuis Madrid, pour France Culture. Le temps sera gris et humide sur une partie de la France métropolitaine ce mardi, excepté sur le sud-est avec encore du soleil. Ce matin, il fait 6 degrés à Strasbourg, 11 à Lille et à Lyon, 12 degrés à Paris et à Bordeaux, 15 degrés à Perpignan. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara de Coq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture. Jacques, un appel intersyndical à la grève sanitaire a été lancé aujourd'hui, nous le disions, par les enseignants oui. des écoles et des collèges. Ils revendiquent davantage de protection face à la pandémie.
Oui, oui, tout à fait. Clara, vous le disiez dans votre journal, le protocole sanitaire renforcé présenté la semaine dernière prévoit des demi-groupes uniquement au lycée. Le ministre refuse pour l'heure d'étendre cette solution au collège, rappelle Faïza Zerouala dans Mediapart. Les enseignants de ces établissements souhaiteraient également sa mise en place. Il est vrai que les images diffusées sur les réseaux sociaux sous le mot dièse « balance ton protocole » sont édifiantes sur les difficultés à faire respecter les consignes de distanciation sociale et de non-brassage des élèves. Pardon. Même si le ministre a estimé cette semaine que les chiffres des contaminations d'élèves et d'enseignants sont maîtrisés, dans sa note du 26 octobre, le Conseil scientifique considère que les collégiens et lycéens sont aussi contagieux que les uns que les autres. Les adolescents de 12 à 18 ans semblent avoir la même susceptibilité au virus et la même contagiosité vers leur entourage que les adultes, signale cette note. Une grève sanitaire, c'est nouveau dans le répertoire d'action collective des mobilisations. C'est dû aux circonstances, évidemment, mais la grève a toujours su évoluer depuis ses origines en fonction des situations et des contraintes, comme le montre l'histoire des mouvements de revendication des femmes dans l'industrie avec le poids de l'assignation à l'espace domestique, aux soins des enfants qui pouvaient entraver leur engagement. Comme le rappelle Eve Murray-Canfort dans la revue Mouvement, les femmes accèdent au droit de se syndiquer en même temps que les hommes en 1884, mais elles doivent obtenir une autorisation maritale jusqu'en 1920. Et même si l'histoire a eu tendance à sous-représenter leur place dans les conflits du monde ouvrier, les historiennes ont retrouvé les traces de mouvements spécifiquement féminins parmi les ouvrières du textile, les sardinières, les moulineuses de soie, les bobineuses de tissage du coton, les ouvrières du tabac, etc. Grève générale, c'est le titre du dossier de cette dernière livraison de la revue Mouvement publiée à la Découverte. Depuis les années 1980, les grèves revendicatives ciblant un employeur sont en déclin, tandis que les grèves sectorielles ou interprofessionnelles ciblant l'État ont connu un essor sans précédent, soulignent les coordinateurs du dossier. Il s'agit en l'occurrence et le plus souvent des réformes de la protection sociale et du droit du travail. Les grèves visant des enjeux plus immédiats comme les salaires, l'emploi ou les conditions de travail ont considérablement reculé. Elles se produisent néanmoins dans les secteurs les plus précarisés, et notamment ceux qui relèvent de l'économie de plateforme, même si la précarité de l'emploi est un facteur de fragilisation de l'action collective. Les sociologues Sarah Abdelnour et Sophie Bernard ont étudié comment elles s'adaptent à ces contraintes nouvelles à travers les pratiques protestataires des chauffeurs de VTC. En octobre 2015, la société Uber baisse le prix des courses de 20% sur le service Uber Eats. Un an après, elle fait passer sa commission de 20 à 25% et disparaître les primes. L'action concertée qui est alors préconisée par ces travailleurs entre guillemets indépendants, c'est la déconnexion massive des chauffeurs, privant ainsi la plateforme des moyens de répondre à la demande des clients. Mais la difficulté tient précisément à l'effet de masse qui est nécessaire pour que ce mode d'action se révèle efficace. Ce qui est déjà rare dans les mouvements classiques se révèle encore plus compliqué dans le cas de ces travailleurs, dont la particularité du statut les amène à se voir davantage comme concurrents que solidaires. Et c'est pourquoi ils ont également recours aux opérations escargots, qui ont le double avantage de faire parler d'eux à moindres effectifs, tout en informant ainsi leurs collègues. Et pour cimenter l'esprit collectif, les barbecues revendicatifs et festifs devant le siège des plateformes ont renouvelé le répertoire des formes d'action. Les plus militants d'entre ces travailleurs précaires ont conscience de défendre non pas seulement les intérêts particuliers d'une profession, mais ceux de l'ensemble des travailleurs menacés par l'ubérisation. Même chose dans le gouffre de la logistique contre Amazon. Le patron pense global, alors nous devons le faire aussi, résume une syndicaliste polonaise. Tous les produits qui partent de chez nous vont en Allemagne, et s'ils font grève en Allemagne, le travail vient chez nous en Pologne. D'où l'intérêt de se coordonner pour faire grève de concert. Mais paradoxalement, pour des raisons juridiques, c'est plus facile en Allemagne qu'au pays de Solidarność. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est votre heure, Julie Gacon.
Bonjour
pour
Jacques
les enjeux internationaux.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la situation dans le Haut-Karabakh.
Oui, le cessez-le-feu même signé cette nuit au Haut-Karabakh. Cessez-le-feu signé entre le premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et Vladimir Poutine. Accord qui consacre la victoire militaire de l'Azerbaïdjan 6 semaines après son offensive militaire dans cette enclave qu'il revendique comme sienne depuis qu'elle a fait sécession, le Haut-Karabakh. Par ailleurs peuplé à 95% d'Arméniens. Bonjour Tigran Yegavian.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Conflits, spécialiste du Caucase et du Moyen-Orient. Cet accord de cessez-le-feu, c'est son premier article. Il stipule que chaque partie s'arrête sur ses positions. Donc à l'heure où il a été signé, donc c'était à minuit, qui était où ?
Eh bien, voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Arméniens sont obligés de céder la ville de Chouchi, qui est un haut lieu symbolique, la capitale historique du Karabakh, pour lequel se disputaient âprement Arméniens-Azéries.
Et que l'Azerbaïdjan venait juste de reprendre, hein. c'était vraiment
oui,
très
il y a eu beaucoup
récent.
De rumeurs hier contradictoires au sujet de la frise et l'abandon de cette ville par des positions arméniennes, ce qui provoque un débat très, très grave en interne en Arménie, et qui est profondément ébranlé à l'heure où je vous parle. Et puis l'Azerbaïdjan donc récupère tous les districts qui entourent le territoire de la région autonome, donc les 7 districts qui formaient une sorte de zone tampon autour de l'enclave. Le Karabakh se retrouve en quelque sorte réduit à sa portion congrue et donc les termes de l'accord stipulent qu'il sera relié à l'Arménie via un corridor de 5 kilomètres avec toujours Stepanakert donc et que l'armée russe va se déployer tout le long donc de la zone pour pouvoir garantir ce cessez-le-feu.
Stepanakert, c'est la capitale du Haut-Karabakh. Haut-Karabakh réduit, dites-vous, à sa portion congrue. Est-ce que parmi les territoires que l'Arménie rend ou restitue à l'Azerbaïdjan, est-ce que tous ne sont que des territoires que la communauté internationale reconnaissait déjà comme faisant de toute façon partie d'Azerbaïdjan, selon la résolution de l'ONU de 93?
Eh bien, disons que cette résolution, elle est un petit peu anachronique, étant donné qu'elle n'a jamais désigné l'État arménien comme l'État agresseur, ni comme une force occupante. À l'époque, elle désignait les forces locales du Haut-Karabakh, qui contrôlaient un territoire qui était de fait reconnu par la communauté internationale comme un territoire azerbaïdjanais.
Donc voilà, donc les territoires qui sont restitués à l'Azerbaïdjan sont des territoires que l'Arménie, en tout cas que l'Arménie avait entre guillemets dans le Haut-Karabakh. Enfin, qu'est-ce qu'elle garde en fait l'Arménie?
L'Arménie, en tout cas les Arméniens, puisque encore une fois l'Arménie n'est pas une puissance occupante, garde en fait Stepanakert, le nord une partie du nord du Karabakh, mais c'est excessivement difficile d'imaginer en ce moment un retour des réfugiés donc arméniens du Karabakh, étant donné que l'armée azerbaïdjanaise, mais aussi en coordination avec l'armée turque, puisqu'il faut comprendre que l'état-major de l'armée turque était à la manœuvre pendant ces 44 jours de guerre, qui est une vraie guerre d'anéantissement, et en tout cas puisqu'ils ont ciblé essentiellement aussi des infrastructures civiles, il est très difficile de concevoir que les réfugiés vont pouvoir rentrer au Karabakh. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que la situation ce qui s'est passé, c'était pas vraiment une guerre de libération au vu des Azéris, c'est une guerre d'anéantissement, ou plutôt une guerre de nettoyage ethnique qui a été mise en scène. Donc Aliyev a déclaré, le président Aliyev a déclaré tout à l'heure avoir chassé les Arméniens de leur terre comme des chiens, et nous l'avons fait, je cite. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est excessivement inquiétant, étant donné qu'on a l'impression que les Arméniens se sont fait lâcher. Il y a là une sorte de syndrome munichois, si vous me passez l'expression.
Les personnes déplacées, réfugiées, donc, doivent rentrer dans le Haut-Karabakh. Vous venez de nous dire, évidemment, Tigrani Gavian, que ça va être très, très compliqué. Les infrastructures civiles ayant pour la plupart été détruites, est-ce qu'on sait combien de Karabakhtis sont partis, ou d'Artsakhiotes, je crois qu'on dit également pour désigner les habitants du Haut-Karabakh?
Oui, à peu près 80% en tout cas des civils, tous ceux qui n'étaient pas en état de combattre sont partis, en tout cas les femmes et les enfants dans un premier temps, c'est-à-dire au cours des premières semaines, même la première semaine du déclenchement de l'agression, donc c'était fin septembre, et il y a quelques jours de ça, les autorités ont décidé d'évacuer les personnes âgées de la ville de Stepanakert, qui était profondément exposée donc au bombardement à sous-munitions, aux bombes à phosphore, ce qui rendait la situation sécuritaire absolument intenable.
Ils sont allés où, ceux qui ont pu partir?
Eh bien, la plupart maintenant se trouvent en Arménie voisine. Ils ont emprunté une route sûre, enfin, qui était relativement sûre, qui était celle du nord, et une autre route qui se trouve au sud, qui reliait l'enclave à l'ouest de l'Arménie. La plupart se trouvent dans la ville d'Erevan, la capitale, ce qui provoque pour les autorités arméniennes, qui n'étaient pas préparées à accueillir ces réfugiés, de sérieuses complications en termes logistiques. Pour l'instant, ces réfugiés donc sont hébergés tant bien que mal par des familles, mais il n'y a pas suffisamment d'infrastructures d'accueil pour pouvoir pallier aux besoins.
La première ville d'entrée en Arménie depuis le Haut-Karabakh, c'est Goros, et les hôtels étaient remplis de réfugiés, comme le racontait dans ses articles pour le journal Le Monde le grand reporter Rémi Ourdan. La route du nord ou la route du sud, ce sont ces routes que les réfugiés donc ont empruntées pour quitter l'Arménie. Peu de temps avant l'accord de paix, la route principale via le corridor dit de Latchin était coupée. C'est cette route-là que les Russes vont désormais sécuriser. Alors l'accord est très précis, on parle de 1960 militaires russes avec des armes légères, 90 véhicules de transport, de troupes blindées, du matériel spécial, etc. Est-ce que la Russie peut vraiment sécuriser ce corridor, ces routes?
Bah, en tout cas, ce qui est important, c'est que les Russes sont seuls à sécuriser cette route, étant donné que ce qui est intéressant de noter dans le texte de cet accord de cessez-le-feu, hein, qui est une défaite militaire côté arménien, c'est que les Turcs sont absents de la signature. En tout cas, ils n'ont pas adossé leur signature. Donc ça veut dire aussi que on écarte l'option d'une formule un peu à la syrienne, une sorte d'Astana numéro 2, dans lequel Russes et Turcs se partageraient une sorte de condominium dans la région, puisque les Turcs ont fait beaucoup de pression pour pouvoir aussi déployer des forces de maintien de la paix dans la région. Donc les Russes sont les grands gagnants, ils vont se déployer seuls ces troupes de maintien de la paix. Ils gardent un levier vis-à-vis de l'Arménie indispensable et je veux dire même, ils accroissent la symétrie de la relation arméno-russe, puisque le territoire de la République d'Arménie, internationalement reconnu, est sanctuarisé par le système de défense russe, mais ils gardent aussi un levier vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, et ça c'est important parce qu'on pensait que l'Azerbaïdjan avait déplacé le curseur complètement vis-à-vis de la Turquie et qui était presque devenu une sorte de satellite turc, puisque le commandement de l'armée azerbaïdjanaise était passé sous commandement turc. Ils gardent aussi un levier vis-à-vis des Azéris, puisqu'ils contrôlent, ils se déploient sur le territoire aussi azerbaïdjanais, et ils gardent un petit Karabakh, une sorte de Karabakh croupion encore, puisqu'ils vont se déployer aussi là-bas. Donc ça veut dire que les Russes sont les grands gagnants de cette affaire.
Et comment ont-ils réussi à exclure la Turquie de cet accord?
Ouais, je pense qu'il y a aussi un grand jeu qui nous échappe, et le Karabakh est une carte dans ce jeu, de ce grand échiquier russo-turc. Il vous a pas échappé que les Russes n'ont pas mis de ligne rouge dans le cas du Karabakh. Ils ne défendaient pas, en tout cas, il n'était pas prévu que les Russes puissent intervenir pour défendre le Karabakh arménien. Par contre, ils ont considéré que la présence de milliers de mercenaires djihadistes venus de Syrie, mais aussi du Pakistan, pouvait constituer un défi pour leurs intérêts et leur sécurité, d'où les bombardements russes ces dernières semaines dans des camps de mercenaires en Syrie. Donc les Russes ont intérêt à ce que les Turcs restent, si vous voulez, une sorte de cheval de Troie dans l'OTAN. Ils partagent avec les Turcs une commune détestation en fait de l'Occident. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ils ont abandonner entre guillemets les Arméniens pour pouvoir continuer à jouer d'autres deals entre guillemets avec les Turcs.
Les Occidentaux, eux, sont complètement mis de côté, alors que le groupe de Minsk, dont Erdogan en Turquie d'ailleurs ne cessait de dire qu'il était inefficace et partial, donc qui réunissait États-Unis, France, Russie, qui existe depuis 92, là France et États-Unis sont complètement hors du jeu.
Oui, les Occidentaux sont aux abonnés absents en tout cas, et ça veut dire que les Turcs et les Azéris ont très bien joué sur le timing de l'événement, puisqu'ils ont joué sur la pandémie et sur les élections américaines pour pouvoir lancer cette guerre qui était déjà préparée depuis l'été dernier. L'été dernier, il y a eu d'importantes manœuvres turco-azéries dans l'exclave du Nakhitchevan, donc à côté de l'Arménie, et qui appartient à l'Azerbaïdjan. Il y avait une guerre au mois de juillet aussi, qui a duré 48 heures, qui a fait dans le nord de l'Arménie, entre les Azéris et les Arméniens, qui a fait office de test. On peut dire que les Occidentaux sont complètement écartés de ce processus. La France, qui co-préside le groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie, a tenté une médiation, a tenté de voter au moins une résolution, mais de jouer en tout cas ses bons offices, elle n'y est pas parvenue. Il y a un autre acteur dont on parle pas, c'est la Grande-Bretagne, qui n'est pas coprésidente, mais qui est très liée à l'Azerbaïdjan pour des intérêts divers et pétroliers. Donc tout cela veut dire que les Russes et les Turcs se contentent de cette situation de fait, tenant compte que les Occidentaux sont complètement écartés en fait de ce qui se passe en cours.
Et pour conclure, l'ONU a parlé de potentiels crimes de guerre à cause d'attaques contre les civils, et les vidéos avec exécution de prisonniers d'hier arméniens, donc commis par les soldats d'Azerbaïdjan. Une enquête internationale peut être ouverte.
En tout cas, c'est souhaitable, puisque les Azéris ont employé en masse des bombes à phosphore blanc, des bombes à sous-munitions, ils mutilent des cadavres, ils mettent en scène des tueries. Le propre président Aliyev s'est fait raser le crâne et apparaît en tri militaire et à la veille de la fête nationale azerbaïdjanaise. Et les djihadistes ont même avoué, certains djihadistes qui ont été prisonniers par les Arméniens, qu'on leur donnait $100 par tête d'Arméniens coupés. Donc ce qui s'est passé, c'est véritablement un carnage, mais c'est compliqué de comprendre si les Occidentaux ont vraiment une volonté politique, si vous voulez, de mener à bien ce type d'enquête.
Merci beaucoup Tigrane Yegavian d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Conflit, spécialiste du Caucase et du Moyen-Orient. Bonne journée.
Merci, au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Publish or perish, publier ou mourir. Les débats entourant la personnalité du professeur Didier Raoult sont devenus idéologiques. Ils ont atteint un paroxysme avec la rétractation d'un article dans la prestigieuse revue scientifique internationale The Lancet. Fraude, mandarina, dans la cuisine des labos de recherche, LSD, une série documentaire de Lydia Benitzrak, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, il est 6h57. Bonjour à tous, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, après le jeu pandémie, voici un nouveau jeu, le jeu de la vaccination.
Mais oui, Julie, j'ai vu qu'il existait effectivement un jeu de société intitulé Pandémie. Il est sorti en 2008. Mais avec l'annonce d'un vaccin, le jeu pandémie pourrait se transformer en un jeu des quatre familles. Un jeu qu'on pourrait breveter pour nous aider à passer le temps d'ici la fin du confinement. La première famille, les complotistes, pour eux c'est du pain béni, un vaccin comme ça il tombe pile au lendemain de l'élection américaine. Franchement, je ne crois pas que ce soit un hasard, c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de la famille complotiste. Le complotiste croit en beaucoup de choses sauf au hasard. Un vaccin qui tombe comme ça après la victoire de Biden, à qui ça profite? À Wall Street, je vous fais pas un dessin. Pfizer, ça rime avec cachère. Bref, le complotiste ne se fera pas avoir, c'est même à cela qu'on le reconnaît. Deuxième famille, le passager clandestin, il se fera vacciner, mais il pense essentiel que l'on vaccine les femmes et les enfants d'abord en cas d'absence de réaction grave. Il offrira son corps à la médecine ou à défaut son bras à la seringue. Le passager clandestin veut bien profiter de la croisière, mais il ne souhaite pas être le premier à monter sur le Titanic. Troisième famille, Julie, la normative. Taliban de la norme sanitaire qui, depuis des jours, veille au respect des règles sanitaires. Le masque, c'est sur le nez. Les mains, c'est savonné. La sortie, c'est 1 heure et 1 kilomètre. Enfin,
Vous voyez très bien de qui je veux parler. Le normatif se fera vacciner quand on le lui dira et enverra les autres se faire piquer. La pandémie a fait le bonheur des normatifs parce qu'une foule de règles se sont abattues sur le monde et ces règles n'ont cessé de changer. Quatrième famille, les early users, tous ceux qui sont prêts à tout pour avoir les dernières nouveautés. C'est ce qu'on appelle des early users. Ils souffrent d'une néomanie qui les pousse à chercher en permanence la nouveauté. Le early user, c'est par exemple votre grand-oncle que vous n'avez pas connu, Julie, parce qu'il s'est fait vacciner contre la polio. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Mais enfin, l'histoire du vaccin contre la polio montre que l'annonce du vaccin contre la Covid, ce n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin. Mais c'est peut-être la fin du commencement de la recherche d'un vaccin, comme le disait Churchill à propos de toute autre chose. C'était en novembre 1942.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors nous allons évoquer le vaccin, mais aussi ce virus et la manière dont on peut comprendre son apparition, et puis également les normes sanitaires que nous devrions imposer. Faut-il protéger particulièrement les personnes vulnérables? Je poserai toutes ces questions à Didier Sicard, qui sera notre invité. Il est professeur émérite à l'Université de Paris et ancien président du Comité consultatif national d'éthique. 7h sur France Culture.